RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Football show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Louis Tour.
L'After est là encore jusqu'à minuit, bien sûr, comme tous les soirs, sur RMC à la radio, sur RMC Sport News à la télé. On est avec Daniel Riolo toujours, Pierre Ducrot toujours là. C'est le moment d'accueillir nos drôles de dames avec Simone Rovera.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Qu'est-ce qui a mis le maillot de Naples.
Ah oui,
qu'est-ce que c'est que cet affichage là,
là. On t'entend bien là, Simone.
On a un peu de tenue quand même.
Voilà. Tu ne peux pas m'entendre ou tu peux pas me voir? Parce que j'ai mis les maillots de Naples.
Non, c'est très bien. C'est
la menace.
C'est cet affichage. Ton club de cœur, c'est ça là.
Bah, partisan, c'est ce qu'on disait nos auditeurs jeudi quand on a fait la foire.
Objectivement, Simone, tu le trouves beau ce maillot là?
Non.
Ouais, mais il n'est pas beau cette année.
C'est-à-dire, c'est un maillot qui était beau. Et que la modernité a un peu trop changé.
Ouais, je suis d'accord
mais
avec toi.
C'est un maillot.
Avec le sponsor de l'eau qui fait beau, faire non. Pipi, là.
On parle pas de ça.
Pourquoi c'est l'eau qui fait faire pipi?
Bah, parce que c'est une eau qui fait faire pipi.
Ah ouais?
En Italie, on vend beaucoup les eaux qui t'aident beaucoup à te libérer.
Il y a des eaux qui ne font pas faire
pipi. Bah, celle-là, elle fait particulièrement faire pipi.
C'est comme si le PSG avait épars sur son maillot, quoi, un peu. Je sais pas si l'épars est une eau diurétique ou.
C'est popo.
C'est popo? Ah, oui. Mince. Bon, autant pour moi.
Magnésium.
Je sais pas que t'étais
plus Contrex.
Contrex?
Ouais.
Très bien. Pipi.
Toi, t'es spécialiste en eau?
Bah oui.
Oui.
Ah ouais, je sais pas.
Un peu en tout, moi, tu sais.
David Lorto est avec nous également pour l'Allemagne. Salut David.
Allô, Freunde. Salut Jean-Louis, salut à tous.
Voilà, la sobriété de David. Il n'y a pas qu'un maillot sur un plateau de télé.
Noir et blanc, ils ont parlé de partisans.
Il y a des jetons, on dirait un croupier.
Ah oui, c'est vrai. Ah, il manque ne pas.
Il a mis les boutons de manchette et tout.
Ouais.
Quelle classe. C'est vrai. Nous sommes également en Espagne avec Fred Hermel. Salut Fred.
En fait, l'eau qui fait vraiment faire pipi s'appelle la bière. Hola chicos. Et bien entendu, Simone, moi, je n'ai pas de maillot de Naples, mais de tout corps avec toi, bien entendu.
Pourquoi?
Daniel, mais ah oui, pour le dire, on savait.
Ah bah oui, bien sûr. C'est mon entraîneur préféré. Mmh. Voilà, c'est.
Donc tout à l'heure, on se demandait un truc. Si je te lançais sur une chanson, si t'étais capable de me suivre. De qui parlait comme joueur?
Gérard, non, entraîneur.
Non, entraîneur.
Tu n'as pas changé, mais.
Qui n'avait pas changé et je m'apprêtais à entamer.
Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances. Ancien gardien du Real Madrid, Julio Iglesias, les gens l'ont oublié.
Exactement.
Ah oui, si, c'est
non, vrai, il a même joué un ou deux matchs avec l'équipe première, il était dans l'équipe B.
Et après, il y a eu un grave accident de bagnole.
Voilà, et il s'est mis à la chanson.
Sa carrière a changé.
Eh ben, ça, c'est fou, hein.
Ouais.
Très bien. Julien Laurent, c'était
quelque chose. Parce qu'il aurait eu autant de femmes en tant que gardien de Real.
Bon, ça doit aider quand même. Regarde Casillas avec.
Ah, bah, Iglesias, ouais, après, il a collectionné quand même.
Iglesias, quand même.
Après, ouais, c'est
Jean-Louis, on parle d'autre chose.
Mais le foot, ça aide quand même.
Il a 10 ans, là. Rulio Iglesias, c'est 50 ans de carrière après derrière.
Oui, d'accord.
Et 250 demandes de paternité. Rulio Iglesias. D'ailleurs, ça vient de ressortir là. C'est rigolo parce que mon premier reportage quand j'étais.
Je pense que le chiffre est
correspondant en Espagne, c'était le fils caché de Rulio Iglesias. Et il vient de gagner son procès là. C'était il y a 25 ans. Rulio va devoir refaire une preuve de un test de paternité.
Ah ouais,
d'accord. J'ai une question. Quand je suis pas là, il y a un fil conducteur quand même dans l'émission.
Non, il y a une introduction souvent.
C'est-à-dire que tous les n'écoutent pas.
Moi, je suis désolé, je trouve ça très intéressant.
Ah, on parle quand même d'un ancien gardien du Real.
Est-ce que Maradona n'en a pas plus des demandes en paternité à Naples?
Ben, non, 250, non.
Mais
il est connu de.
Faudrait
qu'on fasse les stats.
Rulio, c'est une machine. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui est
plus. Le nombre de kilomètres parcourus et tout.
Nico, nous faire des stats là parce que bon. Ouais. Julien Laurence donc est avec nous en Angleterre. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien. Ciao.
Voilà. Je sais qu'il y a
peut-être l'équivalent en Angleterre d'Iglesias au niveau succès, femme, tout ça. Il y a pas les Anglais font pas ça. Ça les
intéresse pas.
Non, pas trop non. Parce que tu sais, en Angleterre, tu te fais griller tout de suite, c'est ça le truc.
Un gardien de Liverpool, oui, non.
Par la presse, tu ressentes les histoires tout de suite, quoi.
Ouais. Un gardien de Liverpool?
Non, je demande, ou d'un gros club, quoi, qui aurait joué un an ou deux à Liverpool, qui aurait fait chanteur après, quoi. Il y a aucun des Beatles qui a été gardien de but.
Non. Et Mick Jagger non plus, je pense pas par ailleurs.
Pas trop.
Alors, Mick Jagger. Ah, Mick Jagger en collectionneur, il est possible que ce soit pas loin de Rulio, quand même.
Oui. Ouais. C'est possible. Bah, pareil, on mettra ça dans les
stats. On sait que Cassano, il avait 900. Tu te rappelles? qu'on avait sorti de sa biographie.
Cassano, c'était mytho.
Ah, mais ah oui, Cassano, il a pas du temps avec Cassano à chaque fois.
Bah non, mais dans sa bio, quand il est resté tout le temps à l'hôtel à Madrid, et en fait, bon, il ramenait des filles dans sa chambre, etc. L'hôtel, c'était l'hôtel de mise au vert du Real Madrid. Et donc, en pleine nuit, il raconte que voilà, ben, quand il en avait marre de la fille, il appelait le serveur de nuit, etc., qu'il apportait des croissants avec plein de Nutella dedans, et il échangeait le croissant contre la fille. Mais il le raconte réellement dans son bouquin.
J'ai pas compris avec qui il échangeait le croissant et la fille.
Mais c'est un peu limite. Cassano, il avait deux problèmes dans la vie. Il aimait beaucoup faire l'amour et il aimait beaucoup manger. Et dans la même nuit, il commençait par les filles, et après il refilait la fille au serveur, qui lui a ramené plein de croissants avec plein de Nutella dedans.
D'accord.
Et
la fille voulait bien aller avec le serveur.
Ah ben ça je sais pas, mais et moi je parle de ce qui, moi c'est pas une invention, c'est exactement.
Il faisait sortir de la chambre la fille pour faire rentrer les croissants.
Les croissants.
Voilà.
Ah ouais, d'accord, ok.
Mais bon, pas très élégant.
Non, c'est un peu pathétique,
mais c'est un peu professionnel.
Mis à part le Nutella là-dedans, je vois pas ce qui a retiré.
Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, avant de commencer notre tour d'Europe, j'ai quand même quelques infos à vous donner, puisqu'on a enquêté à RMC Sport, ça concerne juste le PSG et les révélations de Mediapart la semaine dernière. Vous avez ça en détail sur notre site internet, sur rmcsport.fr. Sachez que l'UEFA aura beaucoup de mal à sanctionner le PSG dans cette affaire.
Déjà parce que l'UEFA est un peu mouillé.
Oui, oh. Mais voilà, sachez-le. Et puis en plus, l'UEFA sait bien que le fair play financier peut être attaqué en justice.
Et ils le savent.
Oui, ils le savent. Donc,
ils le savent depuis le début.
Oui, bah voilà.
D'où les arrangements.
Exactement. D'où les arrangements. Ouais. Vous avez tout ça sur rmcsport.fr. Je pense que là,
donc finalement, il y a pas de révélation finalement. Hein.
Comment?
Finalement, le mot révélation, c'est peut-être pas le mot qui convient.
De Mediapart, c'était pas une révélation pour toi.
Ah, bah, l'histoire des quand même.
Les révélations.
Mais non, mais la révélation,
les révélations quand même. Que Platini et Infantino ont validé le truc quand même.
Mais on savait.
On savait puisque tout a été fait en concert avec l'UEFA.
De toute façon, dès que les pigeons ont su que le fair play financier pouvait être attaqué au niveau européen et que donc il fallait forcément passer des accords pour qu'ils ne les attaquent pas.
Non, je suis pas d'accord, c'était pas aussi clair. Ça n'a jamais été aussi clair jusque-là.
Tu te doutais
qu'il y avait des arrangements, mais ça n'a jamais été dit comme ça. Dire que Platini a validé l'accord,
l'UEFA a toujours négocié avec les grands clubs, puisqu'ils l'ont fait dès 1994, à l'époque de Media Partner. Les arrangements et les accords pour une répartition du blé pour qu'en fait ils ne fassent pas sauter les compétitions européennes ont commencé à ce moment-là. Après que les négociations aient porté sur d'autres dossiers, et notamment le fair play financier, mais l'UEFA a toujours été dans une négociation.
Allez plutôt lire le
monde.
C'est sur quoi? C'est sur
du temps du G8 et du G14.
Déjà dès l'époque. En fait, c'est une négociation permanente, l'UEFA. C'est pas, il n'y a pas d'accord légaux, puisque.
Ils sont obligés, puisque légalement, ils ne peuvent rien imposer.
Si demain, on se barre, on fait une compète, l'UEFA se retrouve à la rue. Donc voilà.
C'est beaucoup en débat en Allemagne d'ailleurs actuellement. J'imagine que partout en Europe, mais.
D'ailleurs, je pense qu'en prenant rendez-vous avec les auditeurs, là, il y a plein de matchs à Ligue des Champions, mais dans la semaine de trêve internationale, on fera des grands débats là-dessus. On reviendra sur l'histoire de l'UEFA, de ses négociations et de comment ça marche vraiment. Parce qu'il y a trop de gens, et je le conçois parfaitement, qui écoutent et qui en fait savent pas réellement comment ça fonctionne.
C'est du lobbyisme. Il y a des règles qui n'ont pas été respectées.
Oui, reste à savoir si ces règles sont légales.
On met ça en commun.
Pourquoi elles ont été écrites?
Beaucoup de règles qui ne sont pas légales dans le football.
Mais bien sûr.
Les extra-communautaires, les limitations.
Mais bien sûr.
On va se faire sauter les bancs.
Le football n'est qu'une histoire d'arrangement.
Bien sûr.
Effectivement, et Bosman a fait sauter.
Le monde est comme ça.
Oui, mais le foot encore plus. Mais bon, on en reparlera dans cette semaine-là avec des gens, des experts qui viendront pour clarifier un peu tout ça. On y va? On commence l'Europe, là?
Bah, bien sûr. Daniel, c'est toi le chef, c'est toi.
Alors, moi, ce soir, ce qui m'intéressera le plus, c'est l'Allemagne. J'ai plein de questions à David.
Ah oui?
Le Bayern, là, franchement.
Ouais, là, il faut creuser.
L'institution Bayern, elle me fait rire en ce moment.
Faut creuser. Intervient avant quand même ou pas?
Vas-y,
tu peux aller faire un tour pendant un moment.
Non, on commence par ça. Moi, je peux comme ça.
On va commencer par l'Italie.
En même temps, oui.
Jingle, Simonier, on verra.
C'est important, hein, là, tout ça.
T'as un animal de compagnie, toi, ou pas?
Oui, un chat. Perry.
Et à quoi ça sert? Tu lui parles et tout?
Ouais.
Tu dis ça va, Perry?
Ouais, il est content.
Oui.
Je le fais jouer. Je lui lance les jouets, les petits.
Et là,
le
ouais.
Tu le ramènes ou pas?
Non.
Il le ramène toujours pas. Toujours pas.
Non. Et maintenant, qu'ils sont deux,
parce que ils se lancent ensemble, tu joues même plus avec eux, toi.
Voilà. J'étais bien. Bon. Tout sur Naples avec toi, Simone. Naples, adversaire du PSG demain. Bon, déjà, Ancelotti a dit aujourd'hui qu'il s'attendait à un gros match. Il sentait le parfum d'une équipe qui va faire un gros match.
Oui, mais Carlo Ancelotti est convaincu
de son travail, est convaincu de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, est convaincu que ce PSG est très fort, mais ce Naples aussi. Il a même dit cette chose, pas avant ces matchs, mais avant Empoli. Il a dit personne connaît la vraie force de ce Napoli, moi non plus. Mais je sais que ça peut faire des énormes choses. Donc il a encore beaucoup confiance sur son travail, son marge de progression. Et ce qu'on a vu ces week-ends, c'est une Naples pas extraordinaire dans les jeux, vraiment, qui a eu pour vous dire, 51% de possession des balles face à Empoli, qui a été dominé pour 20 minutes en début de deuxième mi-temps. Mais qui a gagné 5 ans avec une équipe presque à moitié des remplaçants. Il y avait Diawara titulaire, Rock titulaire, c'est-à-dire elle a fait tourner beaucoup Carlo Ancelotti, et on a vu une équipe qui quand même a maîtrisé son sujet sans être extraordinaire. Et demain on va voir les vrais Napoli. Je pense que Carlo va nous sortir quelques petites surprises, parce que c'est vrai que Tuchel, il a dit plusieurs fois aujourd'hui dans tous les interviews, les one-to-one et la conférence de presse qu'il a fait, Tuchel avra préparé quelque chose après son match de l'aller. Il s'attend à un visage différent du PSG. Il a même dit que les visages de Naples sera adapté à ce qu'il voit en face au PSG. C'est pour ça que je pense qu'il a préparé beaucoup de solutions pour chaque problème que peut poser le PSG. Et ça va être, je pense, plus important les travails des deux coachs que les travails de certains joueurs sur le terrain. C'est là-bas, c'est sur le banc des touches qui va se jouer ces matchs.
Moi, je pense que pour ce qui concerne le PSG, le travail tactique, il est clair, mais ce qui va surtout compter,
ouais, ça va être l'inverse. Ouais.
C'est plutôt l'intensité qu'ils vont être capables de mettre et de subir, parce qu'ils ne sont absolument pas habitués. C'est le grand défaut, un des grands problèmes, d'être bousculés.
À l'aller, la tactique avait joué quand même. Mais ce qui n'exclut pas que Simone ait raison pour Naples.
Jouer aussi bien Liverpool que contre Naples, c'est ta capacité à jouer à 11 et à collectivement répondre présent.
Naples a proposé deux matchs, je trouve, très similaires face à Liverpool et face au PSG, dans l'intensité, dans la compo, dans la façon de jouer, dans les milieux de terrain.
Oui, rappelons qu'ils ont battu Liverpool à São Paulo en les dominant de A à Z, même si le but est venu à la
90e. Voilà, et c'est pour ça que j'ai dit que je m'attends à quelque chose de différent de Carlo Ancelotti.
Et pourquoi, si ça a marché deux fois?
Parce que aujourd'hui, tu vois, la deuxième mi-temps qui a fait le PSG.
Tu crois qu'ils vont pas faire le 4-4-2 avec Insigne,
oui,
Mertens devant.
Oui, mais je pense qu'il y
aura Alan devant la défense, Calderon à droite.
Pas dans la compo. Non, la compo, je pense que ça va être la même. Je pense que la façon d'attaquer les PSG sera différent. S'il y a une défense à 3, je pense qu'il trouvera la façon de faire avancer en D3, je pense, Calderon, pour s'y trouver en phase de un contre un sur les trois défenseurs. Donc, je trouve que l'avantage qu'il y a eu Tuchel en deuxième mi-temps avec ce changement tactique, sera Carlo cherchera de l'utiliser pour avoir lui-même un avantage, surtout avec la défense à 3. Ça c'est mon interprétation, mais comme j'ai dit, aujourd'hui Ancelotti a une équipe qui est au sommet de sa forme depuis le début de la saison. Il a des certains joueurs très importants qui ont reposé, comme Alan Amsic ce week-end pour la rotation qui a fait c'est Ancelotti, même Raúl Albiol a reposé, et il a retrouvé à Mertens en totale confiance, 7 buts dans les 5 derniers matchs compris la sélection, et qui a marqué un triplé.
Donc les deux petits devant.
Les deux petits, Calleón et Fabián Ruiz à gauche, Alana.
Alan, oui.
C'est du 100% ce qu'on a vu. Je trouve pas qu'il y aura des surprises, même si Malcuit a été très très bon face à Empoli, mais je pense que Maximovic assure plus de travail défensif et plus de couverture. Je suis curieux de voir vraiment quelles vont être les solutions apportées à Tuchel et quelles contre-solutions va trouver Carlo Ancelotti.
Bon, on verra ça demain. Parlons des autres clubs de l'actu du week-end en Italie. Alors, on va parler de Milan. Deuxième.
Non, Milan quatrième.
Deuxième de suite dans les arrêts.
Milan, ils ne sont pas troisième au classement?
Milan quatrième.
Quatrième.
Inter,
Naples. Ah oui, quatrième, oui.
Alors, tu oublies la Juve parce que tu considères qu'elle a déjà gagné. Juste avant de parler de Milan, l'info de nos confrères de France Foot, c'est que Wenger serait tout près de Milan. Hein.
Il n'y a eu aucune confirmation sur ça. Moi, j'ai eu plusieurs démentis de cette histoire, soit pour un discours économique. Gattuso a un contrat jusqu'à 2021. Il gagne un peu plus de 2 millions par an, c'est-à-dire Milan devrait virer un entraîneur qui aujourd'hui fonctionne plutôt bien, qui est quatrième, qui va se qualifier sauf catastrophe, même en Ligue Europa, pour prendre un entraîneur qui a à l'Arsenal gagné 8-9 millions par an, et une club qui est sous enquête par les fair play financiers, qui va être sanctionné, et apparemment selon mes infos, après peut-être Julien va nous dire quelque chose en plus, Gazidis qui va arriver au Milan n'était n'avait fonctionné pas si bien avec Wenger à la fin, donc ça m'est surprenait que Gazidis
qui va arriver à Milan.
Gazidis.
Ils vont changer, d'accord.
À partir du 1er décembre, ça semblerait étrange que lui va prendre Wenger et que Wenger et que Leonardo puisse réduire son pouvoir pour laisser aussi à Wenger une partie des choix sur le mercato, que c'est l'info qui est écrite.
C'est-à-dire qu'il change d'entraîneur pour prendre un nom plus important pour la reconstruction du club peut-être, mais pas Wenger.
Mais pas en milieu de saison, pas quand les choses vont bien.
C'est alors bizarre que cette histoire sorte comme ça. J'ai trouvé ça étonnant, moi.
Moi aussi, j'ai trouvé ça étonnant.
Ça paraît très bizarre aussi.
Il cherche un club.
En Angleterre, Julien, ça te paraît bizarre aussi?
Ouais, ça me paraît très bizarre aussi. Je suis d'accord avec Simonet, notamment par rapport à Gazidis et Wenger aussi. Ouais.
Bon, enchaînons. Simonet, qu'est-ce qui te tient particulièrement à cœur là, dans ce qui nous reste? Entre l'Inter qui joue le Barça demain, bon, en même temps, l'Inter va se qualifier.
Sur l'Inter, la seule chose à dire, c'est, je vais parler 30 secondes, du travail extraordinaire d'Espalletti qui a récupéré certains joueurs. Jean-Mario, deux matchs titulaires en but ces week-ends, on l'avait plus vu titulaire à San Siro depuis la saison dernière. Gagliardini, Dalbert, des joueurs qui sont même dehors de la liste pour la Ligue des Champions, qu'il a représenté titulaire en championnat, et ça fonctionne. Et tu vois la confiance qui a fait avoir Spalletti à cette équipe, c'est-à-dire quand les choses vont bien, tout le monde est concerné, même ceux qui jouent moins. Et sur ça, j'ai dit, il y a presque un Rémi Das qui touche, tous les joueurs qui touchent, ils deviennent importants pour cet Inter. Le travail de Spalletti est top.
En bidon du week-end, tu nous as mis Ventura.
Oui, c'est la deuxième fois, mais là, c'est franchement, c'est pas possible.
Ouais, c'est ta charme,
non mais,
charme, le pauvre Ventura.
Trois matchs, trois défaites. Et en plus, il a fait...
Je pensais que t'allais nous parler de Rome qui est à la 9e place, c'est pas normal qu'il soit là, Rome.
Oui,
Francesco, là?
Oui, même si aujourd'hui il y a eu un entretien très, très intéressant sur Sky Sport, une exclue avec Paulo Sousa, qui, bon, il est à chômage de nulle part, il dit oui, j'aimerais bien entraîner la Roma.
Ah oui, d'accord.
Et donc, la candidature officielle de Paulo Sousa. Mais la Roma, quand même, s'est qualifiée en Ligue des Champions. Là aussi, il faudrait quand même une catastrophe parce qu'il ne se qualifie pas. C'est une équipe qui ne tient pas la route en championnat. Mais en Europe, on voit notre visage. Pour te dire, Dzeko, 5 buts en Ligue des Champions, en 3 matchs, 2 en championnat.
C'est quoi le problème? Il y a une explication?
Déjà, dans les matchs en Ligue des Champions, demain, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de Rossi. T'as toujours des cadres importants comme De Rossi, comme Kolarov, comme Manolas qui est récupéré pour demain, qui était blessé, qui arrivent à donner un état d'esprit combatif à cette Roma. Tu vois que si tu sors ces trois joueurs, tu trouves des jeunes, qui arrivent à être celui qui sent la révolte, et la Roma a besoin toujours d'un leader sur le terrain. Et ça, c'est plutôt incroyable. Et Dzeko n'arrive jamais à être leader. Techniquement, oui. Mais à niveau caractériel, c'est pas les joueurs qui bousculent l'équipe.
Voilà pour l'Italie dans un instant.
Alecador.
Belotti.
Marqué un doublé.
Retour. Qu'est-ce qui se passe?
Voilà, il a marqué un doublé la première fois depuis avril qu'il marque plus d'un but dans la saison, dans le même match. Voilà. C'était pour faire plaisir à Daniel qui me demande chaque semaine comment ça va Belotti.
Très bien.
Ça va mieux.
On va faire Belotta, moi, mais c'est un autre problème.
Dans un instant,
non. C'est la transition. Belotta.
Oui, tellement longtemps qu'on n'avait pas parlé
de jambon.
Et
depuis que j'ai.
On a parlé même avec les champions du monde la dernière fois.
Fred va nous expliquer dans un instant comment l'absence de Messi a été bénéfique au Barça. C'est son avis tranché. À tout de suite.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot et nos drôles de dames comme tous les lundis entre 23h et minuit. Simone Rovera, David Lorto, Julien Laurence et Fred Hermel. On y va avec l'Espagne, Jingle Hermel.
Goal ! Karim Benzema !
Il y avait une franchise dans ce, je sais pas.
Ah ça,
j'allais dire c'est une archive.
C'était vraiment une archive. Hein.
Archive, c'était quand le dernier but, c'était mercredi soir.
Non mais pour que tu commandes comme ça, c'était en Ligue des Champions.
Ah ouais, non mais il est pas prêt.
Ça c'est simple, je crois que c'est du temps justement de Carlo Ancelotti entraîneur. Le 1-0 demi-finale contre le Bayern en 2013-2014.
Dire que t'aurais pu crier comme ça s'il avait pas mis sa tête en tribune pour la balle du 2-2 contre le Barça.
Eh oui, tu vois, c'est terrible. Bah justement, bizarre. On va parler du Barça. Très belle, très belle transition. Très belle transition. Bravo, t'as bien travaillé.
Non mais alors, il y en a un qui nous vend son Carlo Ancelotti, là. Voilà. L'autre avec son Benzema. Et
excuse-moi, j'ai rien dit, moi. C'est l'autre qui a commencé.
C'est le petit foulard rouge, là. Non mais c'est
les boutiquiers.
Ça t'est moins clair. Allez, on parle du Barça. Parce qu'après, on dit, on parle pas du Barça, mais il empêche.
C'est incroyable.
Bon, stop. Fred, pourquoi l'absence de Messi va être bénéfique pour le Barça?
Elle a été, puisqu'il est de retour.
Oui.
Parce que l'info du jour, c'est que Lionel Messi s'est remis très très rapidement de sa fracture du bras droit, qu'il est disponible pour jouer a priori le match contre l'Inter, même s'il n'y aura pas de risque pris par Valverde. Donc voilà, comme il revient, il est quand même intéressant de faire un petit bilan, une petite analyse de l'absence de Messi. Ben, oui, elle a été bénéfique, cette absence de Messi, pour une raison très simple, c'est que quand vous avez le meilleur joueur du monde ou l'un des meilleurs joueurs du monde avec vous, ben, y a une tendance, certaines tendances à la déresponsabilisation des coéquipiers du petit génie. C'est-à-dire plusieurs fois, quand le Barça est mené ou ça va pas bien, eh ben on donne la balle à Messi en espérant qu'il règle le problème. Eh ben là, il n'y a pas eu Messi. Puis il y avait des matchs importants quand même, notamment le Classico, notamment le match contre l'Inter en Ligue des Champions, qui était finalement le match qui allait décider, non pas de la qualif, mais de la première place a priori du Barça dans son groupe de C1.
Calme.
Non. Oui, non, mais je veux dire, bon, ils ont gagné quand même, tu vois. Donc. Non, ce qui est intéressant de constater, c'était qu'allait faire le Barça sans Messi. Et c'est marrant parce que j'ai proposé ce sujet ce matin dans nos petits mails que nous échangeons. Et ce soir, Sergio Roberto, dans la conférence de presse à Milan, disait, en fait, quand face à la blessure de Messi, nous étions apeurés. Et finalement, on est sorti grandi de ça. Ben oui, parce que quand il n'y a pas Messi pour régler tous les problèmes, bah les joueurs se responsabilisent un peu plus. Et on a vu par exemple Luis Suarez qui a marqué 3 buts contre le Real, 2 buts
contre le Rayo Vallecano. Mais tu veux dire quoi au fond, qu'ils peuvent être encore plus forts?
Non, c'est que les autres prennent leurs responsabilités. Mais on ne peut pas être moins fort sans Messi. On ne peut pas être plus fort sans Messi. Mais on peut être fort quand même sans Messi. Parce qu'il y en a d'autres joueurs qui sortent du lot. Coutinho, par exemple, quand il n'y a pas Messi, il existe un peu plus aussi. Il a
Fred, est-ce que je peux me permettre de te couper?
Vas-y.
J'ai l'impression, en t'entendant, entendre le Fred après le départ de Ronaldo sur le Real. En disant, va y avoir des parts de Ronaldo, vous allez voir, les autres vont se responsabiliser, voilà.
Ben non, mais là il y a une réalité. Sans Messi, ils foutent une branlée au Real. Sans Messi, ils battent l'Inter hyper facilement. Sans Messi, ils sont capables, dans un match pourri à Vallecas, où ils sont menés 2-1 à la 85e minute, de remporter 3-2. Et on sait très bien que les championnats se gagnent dans des matchs pourris que tu gagnes à la dernière minute. On est d'accord.
Oui.
Donc c'est que il y a des clous. Par exemple, quelqu'un comme Rafinha qui a souvent remplacé Messi, notamment le match contre l'Inter. Rafinha, il jouait pas beaucoup. Messi n'est pas disponible. C'est Rafinha qui joue. Il marque un but. Voilà. C'est-à-dire que la facilité de toujours tout compter sur Messi a été un problème pour le Barça. Regardez la saison dernière. Le Barça gagne la Liga sur quoi? Avec un magnifique gardien qui s'appelle Ter Stegen et avec un Messi qui a souvent gagné à lui tout seul des matchs pas terribles du Barça. Et le jour où Messi a eu un coup de mou, c'était contre la Roma. Vous vous en souvenez, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Oui, et ce jour-là, le Barça est éliminé. Mais je pense que ça a été une leçon pour les joueurs du Barça. Et ce qu'on a vu là, le bilan qu'on peut faire de 3 semaines d'absence de Messi, c'est que de nombreux joueurs se sont responsabilisés.
Alors, et on ces joueurs-là continuent d'être bons avec Messi aussi avec eux. On aura la réponse donc demain.
Et on aura la réponse après. Mais en tout cas, l'absence de Messi n'a pas porté préjudice, loin de là. Voilà mon avis tranché. Mais je pense que Pierre pourra nous le dire. Pierre, tu as joué dans une équipe où il y avait un cador et où finalement, quand il est pas, même pour à cause de ton petit ego, t'as envie de montrer que t'existes aussi quand la star n'est pas là.
Oui, puis c'est surtout que souvent, très très souvent même, quand le cador n'est pas là, tu trouves d'autres façons de jouer et parfois ça marche aussi bien, voire mieux. Mais voilà, c'est le propre des cadors, c'est qu'ils attirent vers eux toutes les.
Qui le plus gros cador avec qui t'es joué?
Non, moi ça n'a rien à voir avec des Messi forcément, mais moi quand tu joues au PSG avec un Rai par exemple, forcément que les ballons passent par lui tout le temps quoi. Alors quand Rai ne joue pas, peut-être que tu utilises plus tes ailes, tu utilises différentes solutions et t'as des joueurs qui du coup sont plus mis en valeur. Mais c'est le propre de tous les cadors et tant mieux quand ils sont là. Et si tu arrives à faire 100 quand ils sont pas là, c'est très bien.
Bah voilà, oui.
Très bien.
Parce qu'une trop dépendance d'un seul joueur, c'est un problème, hein, parce que ça se baisse les joueurs. Donc voilà, ça peut connaître une méforme. D'où l'exemple.
C'est un problème, Fred, juste quand t'arrives pas à faire différemment le jour où ils se blessent. Mais si t'arrives à faire différemment, c'est très bien de les avoir aussi, parce que c'est eux qui font gagner les.
Et le Barça a réussi, et avec des matchs importants, l'Inter et le Real. Voilà, donc c'est important.
Alors Fred, tu veux nous parler de Vinicius Junior et de son appareil dentaire.
Bah oui, non, mais ça, c'est, non, mais c'est
la. Un joueur du Real, hein, c'est ça, Fred?
Ouais, 18 ans, acheté 45 millions au Flamengo. Il est acheté il y a un an et demi, mais il pouvait pas venir avant tant qu'il avait pas 18 ans. Il est arrivé cet été, Lopetegui l'a mis avec la réserve, etc. Et là, Vinicius, le match était encore pourri du Real Madrid contre Valladolid. Vinicius rentre à la 75e, et voilà, il fait un centre-tir qui rebondit sur un joueur. Au moins, il essaye, il a du culot. Et là, ça y est, tout le monde à Madrid est enchanté par Vinicius. Ça y est, c'est le petit génie. C'est extraordinaire, c'est le cador, ça y est, on a trouvé le nouveau Ronaldo, nanana. Bah, oui, c'est vrai qu'il y a, les gens étaient contents au stade. Et c'est vrai que quand Vinicius rentre sur le terrain, bah, il y a quelque chose de différent qui arrive. Vous savez, c'est un joueur, c'est un peu comme Neymar à ses débuts. Voilà, il osait, il était tout jeune, mais il osait faire des dribbles, il osait provoquer, etc. Mais la petite réflexion qu'on peut se faire, c'est que si le triple champion d'Europe en titre, qui possède dans ses rangs 8 joueurs nommés au Ballon d'Or, doit s'en remettre à un gamin de 18 ans qui a encore un appareil dentaire,
c'est quelque chose qui
toujours un problème au Real. On est d'accord.
Ouais.
Voilà, moi je comprends cet enthousiasme, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Voilà. Mais je comprends que les gens puissent avoir un certain enthousiasme. Mais c'est vrai qu'il est pas mal ce joueur. Mais c'est encore qu'un gamin qui vient d'arriver en Europe. Hein.
Oui.
Je sais pas si vous l'avez vu son but.
Si, enfin, son but, tu m'excuses, c'est un but bourré de réussite, quoi.
Bah oui, c'est ça. Rien de plus. Mais c'est exactement. Mais après, c'est vrai que dans le jeu, en
oui, oui, tant qu'il
a un moment, a besoin de vibrer un peu, de s'enflammer.
Oui, oui, voilà.
Voilà.
Demain,
c'est exactement ça.
Demain, Atlético Dortmund en Ligue des Champions. Il y a pas mal d'absences côté Atlético, c'est ça?
Ouais, Lemar s'est blessé, blessure musculaire. Il y a pas Godin, il y a pas Coquet.
Mais Lemar, après un bon début là, jusqu'à ce que tu nous l'emmènes à l'antenne et que tu l'aies guigné derrière, j'ai l'impression que c'est moins bien.
Ouais, un peu plus compliqué, ouais. Un peu plus compliqué,
un peu,
mais c'est
moins bien
c'est
quand
normal,
même. Hein.
Mais il a
eu l'impression d'être arrivé.
Il a parlé avec Fred Hermel,
mais si, il parlait avec
lui. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est
bon, avec lui, il va avoir les tickets d'entrée un peu partout.
Il est resté dans le cadre.
Mais derrière, moins bien quand même, hein.
Ouais. Non, mais il n'y a pas d'inquiétude de majeur. Simeone a tout à fait conscience que c'est un joueur extraordinaire. Il l'adore et qu'il a beaucoup de trucs à apprendre. Donc Simeone, de toute façon, il faut le laisser faire. Voilà. Rappelez-vous de ce qu'était Griezmann quand il est arrivé à Madrid et le joueur extraordinaire qu'il est devenu. Donc il n'y a pas d'inquiétude autour de Lemar.
Ouais, et demain, sur le plan physique, il faut peut-être aussi qu'il digère un peu tout ça.
Bien sûr. On en a parlé souvent avec Daniel. Il y a quand même beaucoup de joueurs vainqueurs du mondial ou finalistes du mondial qui sont dans un état physique lamentable.
Griezmann va pas trop mal, hein. Il a mis un.
Lui, oui, mais parce qu'il a fait un travail. En fait, il a fait un travail très particulier avec le préparateur physique, qu'il connaît très bien. Donc là aussi, parce que quand tu changes de club, les gens connaissent pas forcément ton corps, tes biorhythmes, etc. Lui, Griezmann, le prof Ortega, l'Uruguayen qui est le préparateur physique du staff de Simeone, connaît parfaitement Griezmann et sait le programmer, quoi. Donc c'est pourquoi.
Ah, puis c'est surtout quand tu es Lemar et que tu arrives à l'Atlético, tu te mets dans le, tu te fonds dans le groupe et tu bosses et tu fais ce qu'on te demande. Griezmann peut bien entendu pas imposer quoi que ce soit, mais il n'hésitera pas à aller voir le préparateur physique et à lui dire ça me va pas, j'aimerais faire ça, quoi.
Dortmund, l'adversaire de l'Atlético, on en parlera tout à l'heure.
Il y a très peu de blessés à Dortmund. Il y a Diallo en défense centrale et Schmelzer, mais ils sont au point, les joueurs de Dortmund. On va en parler tout à l'heure.
Ouais, surtout après le 4-0 d'il y a 15 jours, voilà, ça va être un match très intéressant. Alors les deux vont se qualifier parce que Monaco et Bruges, on est d'accord, ça va se battre pour la qualification en Ligue Europa. Mais voilà, on sera demain, on va le vivre ensemble sur RMC. Ça va être une belle soirée européenne, même sans Lemar et même sans Costa. J'aimerais dire un petit mot, mais Yacine Bounou, le gardien de Gérone, gardien international marocain, qui a été toutes les semaines, je suis obligé de parler de gardien, mais Gérone a gagné à Valence, qui est justement mon flop encore de la semaine. Valence, une seule victoire en 11 matchs de Liga, et Yacine Boudou, le gardien de Gérone, a été absolument extraordinaire. On a compté 8 arrêts décisifs ce dimanche, donc bravo à
Yacine Boudou. Lié de la famille de Laetitia Hallyday.
Bounou, pas Boudou.
Ah, pardon.
Dans un instant, la première ligue, l'Angleterre et l'Allemagne, à tout de suite dans l'after.
RMC Football Show, l'After Foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames, Simone Rovera, David Lorto, Fred Hermel et Julien Laurence. L'Angleterre, jingle Julien Laurence.
Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Oh, c'est magnifique.
Ça déroule.
J'adore. Quelle balade quand même.
Lille, j'aime bien quand tu dis Lille.
Ah oui, tu pourrais dire en français.
Je suis un peu obligé de mettre un peu. Bah non, je suis un peu obligé de mettre un peu l'accent anglais dans les mots français.
Ah oui.
Bah oui.
Sinon ils comprennent pas. Hein. Bah ça, ils comprennent en Espagne.
Simonet, tu fais pareil pour nous là.
Mais j'ai dit Juventus. Combien de fois j'ai dit Juventus? Je suis obligé, sinon vous comprenez rien.
Oh, si, oh,
j'ai dit la
Zidane.
Juve.
Quand tu parles de Zidane, Juventus.
Zidane. Si je dis pas Zidane, vous comprenez rien.
Mais oui.
Il nous a parlé de Tuchel tout à l'heure. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.
C'est proche de la bonne.
Comment en italien Tuchel?
Ah bon, on dit comme ça en italien?
Bah ouais.
Oh, très bien. On prononce n'importe comment donc.
Donc.
L'Angleterre donc, Julien. On va revenir sur cet Arsenal Liverpool.
Ouais, cette Arsenal Liverpool qui a été.
Quel grand match.
Qui a vraiment été très sympa, ouais.
Ouais.
Donc. C'était posé la question d'ailleurs, Daniel, mais avant l'émission, avant le match, sur savoir où on était un petit peu cette équipe d'Arsenal qui avait fait cette très belle,
match qu'on
très
belle série. Hein.
Oui, tu te rappelles, on en avait parlé bien pour sûr. Savoir par rapport notamment au match de City et Chelsea, ce qu'ils avaient appris dans les. Et à quel point ils avaient progressé, surtout dans les 13 derniers matchs qui ont suivi, ces 13 matchs sans défaite, certes contre des équipes moins fortes que City, Chelsea et Liverpool, mais quand même, où ils avaient emmagasiné de la confiance, ou tactiquement, techniquement aussi, on avait vu les progrès, mais on attendait la confirmation contre un gros club. On l'a vraiment eu samedi, parce qu'ils ont fait jeu égal, si ce n'est même plus parfois,
ouais.
Même si je pense que le match nul est mérité pour les deux équipes, mais ils ont vraiment bousculé cette équipe de Liverpool comme ils ont rarement été bousculés cette saison pour l'instant.
Ouais. Alors ça fait un parcours à l'arrivée.
Et moi, ce qui m'a frappé en voyant ce super match, c'est qu'au final, Arsenal. Alors, je ne sais pas quelles sont les ambitions réelles du club, mais si tu prends le 11 de ce match-là, que tu compares au 11 des autres équipes fortes en Angleterre, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont à certains postes, qui sont loin d'être des grands joueurs, des stars confirmées. Tu vois, il y a presque une différence notable de valeur d'effectif, tu vois, pour un club qui a autant de moyens. Tu vois, si on prend, bon, en plus la situation de certains joueurs, Ozil qui était en cata avec plein d'histoires, équipe d'Allemagne et tout, et qui là revient plutôt pas mal. Xhaka qui a été critiqué par tout le monde depuis qu'il est à Arsenal, on disait mais comment Wenger peut l'aligner?
Qui a été mauvais.
Comment Wenger peut l'aligner? Bah Emery arrive et il le remet quand même au milieu. À côté de lui, Torreira, bon, peu connu. Mustafi fait pas partie des meilleurs. Pourtant, moi je trouve que c'est plutôt un bon défenseur central, mais lui aussi a essuyé nombre de critiques.
Oui.
Voilà, Holding. Enfin, il y a même des mecs, c'est limite des Kidam quoi, arrière gauche, défense centrale. Tu vois et bon, visiblement quelque chose est en train de se passer, ça joue bien et ils ont résisté à Liverpool et même par séquence ils ont fait beaucoup mieux. La fin de match était magnifique, Lacazette a mis un but fabuleux, le changement tactique de sortir Aubameyang qui a fait la gueule en sortant, bah ça a été bénéfique parce que c'est Iwobi qui le remplace et voilà, il y a plein de choses positives je trouve.
C'est lui qui met le ballon, effectivement, c'est lui qui met le passe. Non, mais t'as raison. La différence principale avec le PSG, surtout, c'est que Emery a un vestiaire à Arsenal qui écoute et deux qui applique. Et qui croit surtout, et trois qui croient en ce que Emery veut faire, ce qui n'était pas le cas au PSG. Et forcément, ça change forcément parce qu'ils sont disposés à travailler plus dur, à l'entraînement, en match. Ils courent plus que la saison dernière, par exemple. Ils font plus de sprints que la saison dernière.
Ça, il y a des choses qui sont sorties là-dessus?
Ouais, voilà, sur les chiffres qu'on a d'Opta, par exemple, les mêmes qu'on a pour la Ligue 1, effectivement, ils font beaucoup plus de
sprint. Pour la Ligue 1, on n'a pas les kilomètres parcourus, les courses à haute intensité, ça sort pas en Ligue 1, chez nous, donc.
Ah bon?
Non.
C'est bien dommage, parce que c'est là aussi où tu vois les progrès faits par une équipe, et ça veut pas tout dire, mais comme tu dis, ça explique pas mal de choses, et c'est vrai qu'on l'a vu dans l'intensité de jeu contre Liverpool, par exemple. Ah oui, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, on l'a vu dans l'intensité, comme tu t'en parlais tout à l'heure, de qu'Arsenal a pu mettre dans ce match et contre Liverpool, tu sais très bien que si t'es pas capable de mettre cette intensité là, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Comme contre City, ils avaient pas pu le faire contre City autant sur la durée qu'ils l'ont fait samedi. Là, ils ont réussi à le faire quasiment du début à la fin et physiquement, sincèrement, pour faire jeu égal avec Liverpool dans l'intensité, dans les courses, dans le replacement, même dans les contres, faut vraiment être très fort et c'est vrai que physiquement, ils ont beaucoup travaillé avec Emery dès l'avant-saison et depuis le début de la saison aussi. Et puis tactiquement, on voit quand même les progrès.
Quand on voit un mec courir autant,
c'est sûr, ça fait une différence, ouais. Ça fait une grosse différence.
Alors Julien, parlons de Martial aussi. Encore Martial qui sauve Mourinho. Il est une belle forme là.
Ah, lui, il est transfiguré Martial depuis un mois là, c'est la folie là.
Ouais, c'est incroyable. Cinquième but lors des quatre derniers matchs de championnat. Et puis tu sais, il a cette on a cette impression qu'il est dans une telle confiance qu'il peut frapper presque de n'importe où, le ballon va rentrer, et c'est flagrant, quoi. La différence entre, par exemple, on va prendre il avait été deux fois titulaire dans les quatre premiers matchs championnat, il avait été sorti à l'heure de jeu contre Brighton, il s'était fait défoncer par Mourinho après, il s'était fait sortir à la 70e contre West Ham, il s'était fait défoncer publiquement par Mourinho en disant, voilà, vous m'avez saoulé avec Martial, ouais. Vous voulez Martial, regardez, je l'ai mis, et ben voilà, regardez, ben voilà. Il l'avait tué devant tout le monde, il l'avait mais vraiment tué.
Mais ça aurait après pu ça, abattre, disait... hein, parce que les déclarations étaient mortelles.
Et on en a parlé dans l'after ce week-end. C'est là aussi où je pense qu'il faut remettre, il faut donner beaucoup de crédit à Martial, c'est la manière dont il s'est pas justement, il a pas baissé les bras, ouais, il a continué à travailler pour quelqu'un dont on avait beaucoup parlé de sa nonchalance et notamment de son caractère un petit peu, bah voilà, si je joue pas, ben je vais pas trop en faire ou je vais pas trop me battre, etc. Là, franchement, je dois reconnaître qu'il s'est, bah, il a dit voilà, je vais regagner ma place du titulaire, je vais montrer à Mourinho que je suis capable d'apporter à cette équipe et il l'a fait très très bien parce qu'il le sauve contre Chelsea avec le doublé. Là, c'est lui qui égalise à Bournemouth, alors qu'ils sont dans une situation en première période très très compliquée contre Bournemouth. Ils peuvent facilement se retrouver à être menés 3-0 à la pause, et c'est lui qui égalise juste avant la mi-temps pour rentrer au vestiaire à un partout. Et donc, pas seulement il marque des buts, mais il marque des buts très importants aussi.
Il pourrait prolonger ?
Moi, je pense qu'il va prolonger. Après, c'est mon opinion. Il a une option d'un an supplémentaire dans son contrat, mais il faut que les deux parties soient d'accord sur les modalités du contrat. Je pense que Manchester est en train de préparer une offre, une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale qui sera beaucoup plus intéressante. Et je pense que il va rester, même si Mourinho reste. Voilà, ils se sont expliqués. C'est un peu rentré dans l'ordre. C'est encore assez fragile, mais c'est rentré dans l'ordre. Il a vraiment l'impression maintenant que c'est un joueur important pour Manchester United. Et puis, par exemple, Mourinho l'a publiquement félicité après le match de samedi en disant voilà, il est très très proche d'être un joueur de classe mondiale.
Mais c'est surtout que Mourinho s'est planté complètement de management avec un garçon comme ça. C'est juste que tu peux pas manager un garçon comme Martial, que d'autres caractères, quoi. C'est voilà, c'est tout. Et Mourinho, on voit là, c'est les limites de son management justement. Moi, je pense.
Visiblement, on peut aussi dire qu'après lui avoir tapé dessus, il l'a relancé. Il est bon maintenant.
Non, parce que après lui avoir tapé dessus, ça a pas tout de suite marché et honnêtement c'est pas pour ça qu'il est bon maintenant. Moi je pense qu'il est très bon Martial parce que Mourinho était le dos au mur, on se rappelle comment il a été le dos au mur il y a quelques semaines et qu'il a été obligé de compter sur certains garçons dont Martial.
Il a fait perdre
le management de Mourinho, le côté mec dur, tout ça dans le bien des joueurs. J'y ai cru mais il y a longtemps que j'en suis revenu, je pense qu'il pense qu'à sa gueule.
Tu voulais Julien
Lucas et Lukaku.
Ouais, je suis d'accord.
Semaine aussi et on verra, Lukaku au placard, Sanchez était en tribune.
Et Alexis Sanchez, ça va un peu mieux ou pas, Julien?
Pas trop. C'est lui qui donne la passe décisive à Martial sur le premier but de samedi, mais non, c'est pas encore ça, quoi.
Il est dans le terrain, il est toujours en 10. Pogba joue toujours en 10 derrière l'attaquant.
Alors là, il a joué avec trois milieux de terrain, donc il a joué avec Fred et Matic, donc il a joué plus côté gauche comme il avait fait à la Juve et là où il se sent le mieux. Mais ça reste encore, c'est pas encore très fixe, quoi. Mourinho, il va changer, je pense, contre la Juve, par exemple, cette semaine, en Ligue des Champions, il va le faire jouer ailleurs. C'est, voilà, au niveau de la stabilité tactique et du positionnement des joueurs, c'est encore pas ça, quoi. Moi,
Julien, un mot vite fait avant de passer à l'Allemagne sur ton cador, tu voulais citer tout le club de Leicester.
Ouais, parce que c'était vraiment très beau samedi à Cardiff. Ils ont gagné déjà, ce qui était important après ce qui s'est passé le week-end précédent. Mais t'avais 3000 supporters qui étaient là avec leur drapeau thaïlandais, avec des hommages pour Vichai, le propriétaire et le président qui est donc décédé dans cet accident d'hélicoptère le samedi précédent. Les joueurs sont restés 10 minutes après le coup de sifflet final devant leurs supporters à chanter, à applaudir. On a vu des larmes dans les yeux de Kasper Schmeichel par exemple lors de la minute de silence d'avant le match. Et ce qui était très beau, c'est que Schmeichel a fait venir tout le staff technique, donc Claude Puel et ses adjoints, mais aussi les gens qui préparent les maillots, l'attaché de presse du club. Tout le monde est venu au niveau du rond central. Je sais pas si vous avez vu les images, mais c'était vraiment très émouvant. Et les joueurs, dès la fin du match, ont pris un avion pour rejoindre Bangkok pour aller à l'enterrement de leur propriétaire, de leur président. J'ai vraiment trouvé ça très beau.
Bah, c'était important de le mentionner. T'as eu raison, Julien. 23h48 dans l'after. On passe à l'Allemagne, jingle l'orto.
Timo Werner.
Bah, je vous propose de regarder la Coupe du Monde. Chapeau 1.
Rien pour cette remarque.
Ouais. Et oui, mais ce soir, c'est le contraire.
Oui, alors tu l'as mis en cador, Timo Werner. Oui, ah, oui. Que c'est tiens, qui est passé.
Commençons par lui.
Oui, bah doublé ce week-end, c'est son dixième, voilà. C'est son dixième doublé en Bundesliga contre le Hertha Berlin à Berlin. Dixième doublé en Bundesliga, aucun joueur n'a fait aussi bien depuis Dieter Müller, Gerd Müller et Klaus Fischer. Donc c'est le quatrième joueur le plus jeune de l'histoire de cette compétition à réussir ça. C'est son quatrième doublé cette saison, trois en Bundesliga, deux en coupe, et son entraîneur Rangnick a expliqué
donc, cinquième,
que non, trois et un. Trois en Bundesliga, un en coupe. Son entraîneur Rangnick a expliqué que ce joueur-là était le couronnement du jeu de Leipzig. Donc effectivement, hors sujet en Coupe du Monde parce que l'Allemagne jouait un jeu arrêté. Avec Leipzig, comme ça va très vite, c'est l'attaquant idéal sur le côté ou axial pour effectivement marquer des buts. Et il est redevenu une machine à but. Il fait partie des meilleurs buteurs du championnat. Alors lui, c'était ton cador. Et tu veux parler du Bayern, surtout.
Forcément. Forcément, ça tourne pas rond au Bayern.
C'est la crise là, mais les joueurs veulent la peau de Kovac.
Alors attends, c'est plus compliqué que ça. Un petit résumé peut-être, parce qu'il y a eu cette scène surréaliste ce week-end. 71e minute, 0-0 contre Fribourg à Munich. Thomas Müller entre en jeu et Lisa Müller, qui est Madame Müller, qui est elle fait du cheval à haut niveau. Je sais plus comment on dit en français.
Enfin,
voilà, merci. Merci. Et donc, elle connaît le haut niveau.
Elle te dit, je vais montrer que c'est moi qui tiens le foyer.
Elle est en tribune.
Elle est reine.
Tu sais que depuis, ça va pas très bien d'ailleurs, peut-être entre les deux. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Elle est en tribune, donc au premier rang derrière le banc des entraîneurs. Elle voit Thomas Müller entrer et elle fait un message. Je crois que c'est sur Instagram ou enfin un réseau social en tout cas.
Une story sur Instagram.
Un petit message pour dire l'entraîneur. Enfin, elle ne cite pas Kovac, mais on comprend que c'est lui. A eu un trait de génie. Ça y est, soudainement, il fait rentrer Thomas Müller. Évidemment, beaucoup de buzz autour de ça.
La remarque stupide.
Elle supprime le message et le club, et c'est là où on comprend que ça va pas bien au Bayern, le club fait un communiqué derrière pour expliquer qu'elle s'est excusée, que le message a été supprimé, et donc ça veut dire
qu'on a oublié de justifier la femme d'un des joueurs de l'équipe.
C'est pas Bayern ça.
Si tu en es à trembler parce que c'est pas la première fois, c'est arrivé dans d'autres cas, dans d'autres pays, des femmes de joueurs.
La femme de Kaka par exemple à Madrid.
Exactement.
Madame Thiago Silva.
Madame Thiago Silva. Voilà. Alors il faut surtout pas.
Non, il y a Véro aussi, mais c'est pas la femme, c'est la maman. Mais Véro.
Il faut surtout pas amplifier ce micro événement. N'empêche que ça illustre quand même les petits soucis aujourd'hui au Bayern. On est absolument pas serein.
Ivery Robben qui sont tout le temps en train de chouiner.
Alors en plus donc ce week-end 0-0 Jean-Louis contre Fribourg. Ouais. Le Bayern avait ouvert le score donc avait fait le plus dur à la 80e. Égalisation de Fribourg à la 88e et en fait. On s'aperçoit de plein de choses. Premièrement, la défense centrale est débordée, super lente. Ça devait être Hummels et Süle. Ils ont un mètre de retard dès le départ sur le joueur qui finit par marquer un but. Tu t'aperçois que la mentalité qui est le point fort de Fribourg, parce que c'est une équipe sans star, la mentalité qui est donnée par Christian Streich, l'entraîneur de Fribourg, elle n'est pas du tout la mentalité qu'il y a au Bayern. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Et finalement, en réfléchissant un peu sur ce club du Bayern, tu t'aperçois que les deux dirigeants du Bayern, c'est qui ? C'est Karl-Heinz Rummenigge, un ancien super attaquant, ou Lyonès, un ancien super attaquant. Et ces gens-là défendent les joueurs. Et quand ils prennent des entraîneurs, ils les prennent pour que ce soit des gens qui accompagnent les stars.
Ils sont pas dirigeants Bayern depuis hier, ils sont depuis des années.
Non mais tu vas voir, si tu reprends un peu vite fait l'histoire, tu t'aperçois que quand on fait venir au Bayern Pep Guardiola, ça grince. Pep s'en va, on fait venir quelqu'un qui va pouvoir dorloter des joueurs. Quand on fait venir au Bayern Louis van Gaal, ça grince, parce que van Gaal veut imposer son système, c'est un dogmatique, ça grince, ça passe pas super bien avec Ness et Rummenigge, il s'en va, on fait venir Juppan
Kess.
C'est pas aussi simple, mais simplement, au Bayern aujourd'hui, on a essayé de trouver une solution entre les deux, c'est-à-dire entre un entraîneur qui va caresser les joueurs dans le sens du poil, comme peut-être Carlo ou comme peut-être Heynckes, entraîneurs rigides.
Mais aujourd'hui, ils ont fait virer Carlo les joueurs.
Ils ont choisi au Bayern une situation entre les deux, c'est-à-dire entre des entraîneurs qui seraient plutôt du côté des joueurs,
ça pue dès le départ,
et des entraîneurs qui seraient plutôt du côté des dirigeants. Et le problème de Kovac, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas de légitimité. Il n'a pas réussi à s'imposer vis-à-vis des joueurs. Il n'a pas réussi à leur proposer un cap clair.
Parce que les joueurs sont des colliers qui sont là depuis 10 ans et beaucoup sont cramés. Robben, Ribéry.
C'est une explication, mais il y a tout un tas. Alors évidemment, t'as l'explication sportive. La preuve, ce week-end, le meilleur joueur sur le terrain est de loin, c'est Serge Gnabry, qui part dans tous les sens, qui fait des courses, qui marque, qui propose des choses. Et tu disais, Fred, tout à l'heure, qu'au Real, aujourd'hui, on voit un jeune de 18 ans parce qu'on voit pas les autres. Au Bayern, ce week-end, c'était ça. C'est-à-dire quand il y avait Gnabry qui faisait les efforts et qui était merveilleux, et tu avais tous les autres.
Alors je vais pas dire que ce sont des sénateurs, parce qu'on va bien s'apercevoir en milieu de semaine,
même un paquet de
en Ligue des Champions, que contre l'AEK Athènes, il va nous aligner une équipe avec toutes les stars, qui sont valides, et ça devrait fonctionner, tu vois.
Si c'est pas compliqué pour le Bayern quand même.
Mais en tout cas, là, ils sont troisième du championnat, dépassé par Gladbach, dont il faudrait dire un mot. Oui. Et en Allemagne, on est très surpris de ça, parce qu'il y a, il y a des lustres qu'on n'avait pas vécu ça.
Donc et le Bayern ne tombe pas le week-end prochain. Pour... Il y a Bayern Dortmund, hein, Daniel. T'aimes bien qu'on
David,
te le dise.
David, tu te fais chier, pourquoi tu dis pas tout de suite? Pour réserver, c'est à quel heure?
Quand? Mais non, mais,
Je vous ai dit, les gars, quand il y a des grosses affiches, c'est les deux semaines avant.
Tu peux pas te faire un planning, Daniel.
C'est important dans le week-end.
Tu peux pas aller sur Google, surtout.
Dortmund Bayern. Un smartphone.
Dortmund Bayern, match évidemment essentiel.
Vous faites de la boutique tout le temps.
Voilà, c'était l'idée, là, quand même.
Bayern Dortmund, quoi.
Dortmund Bayern, ce sera Dortmund Bayern. Dortmund peut donc prendre 7 points d'avance s'il s'impose. Les internautes des différents médias allemands, considèrent à 2/3, 60-70% que Dortmund est favori de ce match. C'est une évidence au vu des états actuels. Je pense que c'est en milieu de journée, ça doit être 15h30, je pense. J'ai pas vérifié l'horaire.
Ouais, mais... Je vais te dire ça, Daniel, puisque t'es pas capable de te faire un plan.
J'y vais.
Mais Dortmund est favori sur les dynamiques du moment.
18h30, c'est le match du soir.
Ah, c'est le match du soir. Un peu isolé, voilà, d'accord. Dortmund est favori parce que...
Attends, alors... Ce match-là, tu nous en parleras.
Oui,
je te donne 30 secondes pour parler de ton kiff du moment, c'est Mönchengladbach.
Bah, Mönchengladbach, c'est bien. Mönchengladbach deuxième, et c'est une super équipe, avec un Thorgan Hazard, le frère d'Eden, qui est en train de vraiment de briller, qui est au sommet de sa forme, qui a marqué deux fois ce week-end, je crois, avec une passe décisive de d'Alassane Pléa, qui est revenu après son petit souci physique.
Là, il est pas mal aussi, non?
Belle équipe, Gladbach, ça va bien, avec le Brésilien Raphaël, attaquant axial. Ils ont pris une claque en coupe contre Leverkusen, ils ont su se relever tout de suite derrière. Équipe qui marque énormément de buts, 23. Alors ils sont deuxième meilleure attaque derrière le Borussia Dortmund. C'est super de voir Gladbach deuxième, et ça veut dire aussi que si le Bayern a des faiblesses comme c'est le cas aujourd'hui, on a quand même quelques équipes qui sont capables de répondre. Oui, Dortmund, on en a parlé régulièrement ces dernières semaines, mais Gladbach, c'est l'autre Borussia qui va bien, et c'est bien d'en parler grâce aussi à Alassane Pléa.
Suivez Gladbach. Voilà.
Ça vient de Prusse, je pense.
Voilà, ça vient de Prusse. On aura le temps d'en reparler un jour ou jamais. Merci, messieurs. Merci, les drôles de dames. David Lorto, Simone Rovera, Fred Hermel, Julien Laurent.
Bonne semaine Ligue des Champions.
Merci,
à tous, hein.
Pierre. Ouais. Merci, Daniel. Ouais. Grande
ciao
semaine
à tous.
Ligue des Champions. Effectivement, il y aura des grandes soirées, des grands afters toute la semaine. Ciao.
Oh, génial.
RMC Football Show, l'After Foot.